Bonjour, je suis Cécilia Cohen, je suis orthoptiste à l'Institut de la Vision chez StreetLab et je vais vous parler des explorations fonctionnelles en ophtalmologie. L'objectif de cette présentation, c'est vraiment de vous donner une revue claire et précise des différentes explorations fonctionnelles, celles qui sont le plus utilisées en ophtalmologie. Nous ferons aujourd'hui la distinction entre les examens qui sont dits objectifs et les examens subjectifs qui vont nécessiter la participation, on va dire un petit peu plus active, des patients. Nous allons commencer par la lampe à fente que vous devez bien connaître. C'est l'appareil que l'on utilise, que l'ophtalmologiste utilise quand vous êtes dans son cabinet. C'est un instrument qui va permettre d'examiner la totalité de l'œil avec un fort grossissement et qui permet d'effectuer une mesure en profondeur également, d'aller voir le fond d'œil. C'est un instrument qui va concentrer la lumière à l'intérieur de l'œil et il va permettre d'évaluer les paupières, la conjonctive, la sclérotique, la cornée, l'angle iridocornéen, l'iris, la pupille, le cristallin et enfin le fond d'œil. Cette lampe à fente permettra aussi, grâce à un matériel qu'on peut ajouter, de prendre la pression intraoculaire avec ce qu'on appelle le tonomètre. On va détailler un petit peu cette pression intraoculaire. Donc on appelle ça la tonométrie oculaire. C'est la technique qui est utilisée pour mesurer la pression intraoculaire qu'on appelle aussi dans les dossiers la PIO, de façon indirecte par la détermination de la tension de la membrane de la cornée. Ça permet de déterminer si elle se situe dans des valeurs normales comprises entre 10 et 20 mm de mercure. Cette mesure est indirecte car elle est obtenue en exerçant une force sur la cornée qui permet d'estimer la pression qu'il y a dans l'œil. Il existe plusieurs types de tonométrie. La tonométrie à jet d'air ou tonométrie pneumatique. Donc c'est le petit jet d'air que vous pouvez être amené à recevoir pour mesurer la pression intraoculaire. Et c'est une technique qui n'est pas invasive. Et en réalisant cette petite impulsion d'air au centre de la cornée, on aplatit la cornée et l'on peut déterminer grâce à cela la pression intraoculaire. Il y a ensuite la tonométrie par aplanation, et c'est un type de tonométrie qui doit être fait en contact avec le globe oculaire, qui est tout le temps d'ailleurs réalisé par le médecin, car il nécessite une petite instillation d'anesthésie, puisqu'on va poser, c'est un examen contact, on va poser quelque chose sur la cornée. Et elle est réalisée avec la lampe à fente. Je vais vous parler de l'acuité visuelle, que vous connaissez bien, c'est la mesure de référence. C'est la capacité de l'œil à voir le plus petit détail possible. Elle reflète de façon directe la fonction rétinienne centrale, celle des cônes. Elle représente un angle et est exprimée en dixième ou en log mar, donc mar pour minimum angle of resolution. L'acuité visuelle, c'est un examen qui est fait avec la meilleure correction optique possible, soit sur l'œil droit, puis sur l'œil gauche, et parfois en binoculaire, les deux yeux ensemble. On peut également mesurer une acuité visuelle de près, et après 40 ans environ, on est amené à ajouter une correction optique supplémentaire que l'on appelle l'addition, qui va être nécessaire pour compenser l'accommodation que le cristallin ne peut plus réaliser correctement. Cet examen peut être réalisé par un ophtalmologue, un orthoptiste, un optométriste ou un opticien. On va parler maintenant des amétropies. Les amétropies sont les déficits visuels optiques qui peuvent être corrigés par un système optique, donc des lunettes ou des lentilles. On parle de myopie, d'hypermétropie, d'astigmatisme et, comme à l'instant, de presbytie. Il faut bien avoir en tête que l'amétropie et la déficience visuelle sont deux choses différentes. je vous ai présenté trois schémas différents qui permettent de mettre en évidence de façon optique ce qu'est la presbytie, la myopie et l'hypermétropie. Et on parle bien sûr aussi d'hémétropie. Donc si on commence par l'hémétropie, c'est un œil, on va dire, qui a une taille quasiment parfaite. Quand une image est projetée au loin, elle est ensuite récupérée et projetée sur la rétine de façon très précise. Donc l'image est nette, il n'y a pas besoin de verre correcteur pour la percevoir. Quand on est myope, on a un œil qui est plutôt plus grand que l'œil hémétrope. Et donc de ce fait, l'image au loin va être projetée dans l'œil, en avant de la rétine. Du coup, elle sera perçue comme floue. Et on va devoir proposer au patient un verre correcteur qu'on dit concave avec le signe moins, qui permet, grâce à un jeu optique, de replacer l'image sur la cornée, comme un œil hémétrope, et d'avoir une image la plus nette possible. L'hypermétropie, c'est un peu le contraire, c'est un œil qui va être plus petit, donc l'image va être projetée en arrière de la rétine, elle sera perçue comme floue, et du coup, pour la percevoir de façon nette, il faudra mettre un verre correcteur que l'on dit convexe, qui sera souvent annoté du petit signe plus sur votre ordonnance. Il faut bien se rendre compte que quand on parle ensuite de malvoyance, c'est une des structures de l'œil qui va être abîmée pour plusieurs raisons différentes, donc que ce soit la cornée, le cristallin, la rétine, les milieux. Et dans ce cas, que l'œil soit myope ou hypermétrope, même s'il est bien corrigé, la vision ne sera pas nette. Mais il faut quand même corriger la métropie pour donner au patient la plus grande chance, entre guillemets, d'avoir l'image la plus nette possible, malgré d'autres défauts de l'œil qui ne sont pas compensables par des corrections optiques. Je vais vous parler de la presbytie. Donc c'est un défaut optique qui est naturel. C'est, on va dire, un vieillissement sain que l'on corrige, comme on disait tout à l'heure, avec une addition pour la vision de près. Et dans ce cas, on est amené à porter des verres progressifs pour corriger cette vision de près. Et si l'on avait déjà auparavant des lunettes pour corriger la vision de loin, du coup, ces lunettes-là permettent de corriger la vision de loin et la vision de près. Elle apparaît en général vers 42 ans, mais ça dépend des gens, c'est pas toujours exactement cet âge-là. Et les symptômes de la presbytie, ça va être d'allonger les bras, d'avoir besoin d'un peu plus de lumière, d'avoir des difficultés à avoir des petits caractères et de devoir lire en permanence de près avec une correction optique pour être confortable, avoir une vision nette. Naturellement, l'œil va focaliser sa puissance en fonction de la distance de l'objet qui est observé, mais avec l'âge, l'œil n'est plus capable de faire cette focalisation et lorsqu'un objet est trop proche, l'image se forme en arrière de la rétine, du coup l'image est floue et c'est pour ça qu'on la corrige avec une addition. Voilà pour la correction optique, les amétropies. On va parler ensemble maintenant du champ visuel. Donc le champ visuel, c'est l'étendue du champ de vision qui est perçu par un œil lorsque l'on regarde un point fixe en face. Il est normalement en horizontale de 180 degrés. Donc quand on regarde droit devant, qu'on ne bouge pas les yeux, qu'on ne bouge pas la tête, on est capable de percevoir des choses qui vont arriver dans les 180 degrés autour de nous. Il y a différentes façons d'évaluer le champ visuel en fonction de ce qu'on recherche, ce que le médecin recherche. Il va faire une ordonnance du coup à l'orthoptiste et on peut être amené à faire un examen de champ visuel statique. Donc vous entendrez sans doute souvent, vous avez déjà entendu le terme de Humphrey ou octopus, ou un examen de champ visuel dynamique que l'on appelle le champ visuel de Goldman. C'est vraiment un examen très important, c'est un examen subjectif. Il permet la mesure et la localisation de l'atteinte. On peut définir aussi, grâce au champ visuel statique, un seuil de perception de la rétine qui est exprimé en décibels. On peut mesurer un diamètre en degrés et on peut mesurer un scotome. Ce qu'on appelle un scotome, c'est une zone d'absence de vision qui peut être perçue comme une tache, comme une absence de vision, comme une zone très floue. Et on peut également, grâce au champ visuel, mesurer la profondeur de ce scotome. Il n'est pas toujours présent lorsque l'on présente au patient les mêmes lumières. Si on présente des lumières plus ou moins intenses ou de taille plus ou moins importante, le scotome peut être présent ou non. Et dans ce cas, on va définir un scotome qu'on appelle absolu s'il n'est jamais présent, que le patient ne voit jamais dans cette zone. Et si le patient voit dans certains cas dans cette zone, on ne considère pas que le scotome est absolu. Alors, la majorité du temps, on va proposer un champ visuel monoculaire. Donc, on fait l'œil droit puis l'œil gauche. Et au champ visuel de Goldman, on peut aussi être amené à mesurer un champ visuel binoculaire qui est souvent demandé dans le cadre de la réalisation de dossiers pour la MDPH, la Maison départementale du handicap. Je vais vous parler maintenant d'une autre fonction qui est très importante pour caractériser la vision, c'est la vision du contraste. Donc c'est ce qu'on appelle la mesure de la luminance par rapport au fond. Dans ce type de test, la taille de la lettre reste la même. Elles sont souvent assez grosses et sont tout le temps les mêmes. 100% de contraste, c'est une lettre noire sur un fond blanc, par exemple, et c'est mesuré en log CS pour contraste. En clinique, on va mesurer la sensibilité au contraste, c'est-à-dire la quantité de contraste qui est nécessaire pour lire une lettre ou pour définir une forme. Et souvent, cette mesure est un très bon indicateur pour prédire la capacité de lecture et la capacité à utiliser sa vision au quotidien. En tout cas, c'est très important de la coupler aux différents examens dont on a parlé précédemment. On peut également mesurer la vision du contraste grâce à des réseaux, des alternances de bandes noires et blanches. Et dans ces cas-là, on peut mesurer ce que l'on appelle des fréquences spatiales. Je vais vous parler maintenant du test de l'adaptation à l'obscurité. C'est un test qui n'est pas réalisé très très fréquemment, mais qui peut être vraiment intéressant dans le cas d'atteinte de la vision périphérique principalement, de la vision nocturne. Elle permet de mesurer la capacité des cellules visuelles, donc des cellules rétiniennes, à récupérer de la sensibilité à la lumière après un éblouissement. C'est un test que l'on mesure en décibels. Pour la réalisation de ce test, on va proposer un éblouissement de 5 minutes des deux yeux ensemble pour saturer la rétine. Puis, dans un noir total, on propose une adaptation de 20 à 40 minutes. Et pendant cette adaptation, dans la machine, des stimulations visuelles sont proposées au patient et il doit répondre quand il les voit. Cet examen va mettre en évidence un défaut des bâtonnets dans l'adaptation à la condition de pénombre. Il est prescrit par un ophtalmologiste et est réalisé en général par un orthoptiste ou un optométriste. Je vais vous parler de la vision des couleurs. La vision des couleurs, c'est l'analyse de la perception des couleurs. La rétine possède trois types de cellules spécifiques qui sont appelées des cônes, qui peuvent être rouges, verts et bleus, qui permettent d'avoir ce qu'on appelle une vision trichromique. Les signaux sont transmis par les voies optiques vers le cerveau sous la forme de messages codés. C'est ensuite le cerveau qui va élaborer la sensation de vision colorée au niveau du cortex visuel et la perception colorée est élaborée à l'aide d'autres centres cérébraux. En cas d'atteinte rétinienne, on va avoir ce qu'on appelle des dyschromatopsies acquises ou cristallinienne, et les explorations sont relativement perturbées. Il existe aussi des dyschromatopsies dites héréditaires comme le daltonisme. Elles sont innées et stables. Je vais vous parler maintenant de l'électrophysiologie. L'électrophysiologie visuelle rassemble un ensemble d'évaluations qui permettent la mesure d'une réponse électrique à une stimulation visuelle via des capteurs. C'est donc l'étude des variations des potentiels électrophysiologiques qui sont générés au cours de la mise en activité des cellules visuelles et des voies optiques jusqu'au cortex visuel primaire, qui se trouve au niveau de l'occipital, au niveau du cou, un petit peu plus haut. Le bilan électrophysiologique est un examen complémentaire en ophtalmologie, indispensable à l'exploration de la fonction visuelle, mais qui ne peut pas être interprété de façon isolée. C'est vraiment une notion très importante. C'est pour ça que plusieurs examens en général en ophtalmologie sont réalisés et vous sont proposés. C'est qu'on ne peut pas en faire qu'un seul et tirer des conclusions. En général, c'est la façon de les mettre ensemble et de les comparer qui permet au médecin de préciser son diagnostic et d'évaluer l'évolution et l'évolutivité de la pathologie. On va parler de ce qu'on appelle l'électrooculogramme. Il évalue la fonction du couple photorécepteur épithélium pigmentaire. Ce sont deux couches de la rétine, indispensables à la bonne vision. Ces tests sont réalisés en conditions photopiques, c'est-à-dire en lumière du jour, et en conditions scotopiques, c'est-à-dire dans la pénombre. Cela permet d'obtenir un rapport en pourcentage des amplitudes qui sont mesurées. Je vais vous parler de l'ERG, électrorétinogramme. L'ERG enregistre l'activité des photorécepteurs et des couches plus internes de la rétine, mais pas des cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires sont les terminaisons, les cellules nerveuses qui envoient comme un câble électrique l'information visuelle jusqu'au cerveau. Ces examens sont réalisés les pupilles dilatées avec des électrodes cornéennes ou cutanées. On a deux examens, comme on disait tout à l'heure, un ERG qui est dit scotopique avec un enregistrement des réponses électriques liées au bâtonnet après adaptation à l'obscurité en utilisant des flashs de faible intensité lumineuse, 1 candela par mètre carré. Et un ERG dit photopique qui est l'enregistrement des réponses électriques liées au cône qui sont isolées après l'adaptation à la lumière en utilisant des flashs très intenses, 100 candela par mètre carré. En électrophysiologie, on va également être amené à parler des potentiels évoqués visuels, ou PEV. Ils sont enregistrés grâce à des électrodes qui sont placées au niveau du cortex occipital. Il y a des PEV flash qui permettent surtout chez les enfants d'évaluer s'il y a une maturation, d'évaluer la maturation des voies optiques. Les PEV patterns, qui sont une réponse plus globale de la vision centrale, et cet examen est également sensible à l'activité des cellules ganglionnaires dont on parlait tout à l'heure. Nous allons lister les méthodes d'exploration objective d'évaluation clinique de l'œil. L'OCT, ou l'angiographie, donc l'OCT c'est la tomographie à cohérence optique, c'est un examen d'exploration du fond d'œil. Il est rapide et indolore, et l'objectif c'est d'examiner les différentes couches de la rétine, l'anatomie des différentes couches de la rétine. On peut du coup observer le nerf optique, on peut aussi faire des OCT antérieurs et explorer la cornée, et on peut bien sûr explorer la rétine. Cet examen permet d'avoir des images dites en coupe, qui vont venir compléter un examen du fond d'œil dit en face et qui permet du coup d'examiner de façon précise et complémentaire la surface de la rétine. Il utilise un laser infrarouge qui va permettre d'obtenir des images de très haute qualité et assez rapidement. On est parfois amené aussi à réaliser un examen que l'on appelle l'angiographie à la fluorescéine et au verre d'indocyanine ou ICG. C'est également une imagerie, elle permet l'étude de la vascularisation rétinienne et choroïdienne. Et des clichés sont réalisés après l'injection intraveineuse de colorants à différents moments pour pouvoir apprécier dans le temps l'état de la vascularisation de la rétine et de la choroïde. On va parler désormais de la topographie cornéenne, qui est une exploration de la surface antérieure de l'œil de la cornée. C'est une exploration objective, rapide, qui est très souvent réalisée dans le cas d'atteinte cornéenne. Et il va s'agir de représenter graphiquement, sous forme d'une carte, certaines propriétés géométriques de la cornée, telles que la courbure, l'élévation, l'épaisseur. Cette exploration est très souvent utilisée pour diagnostiquer des maladies de la cornée et mettre au point des méthodes aussi de correction de la vision, comme la chirurgie de la myopie par exemple, ou tout type de chirurgie réfractive en fait. Je vous remercie et à très bientôt pour des questions si vous en avez. Au revoir.